écoutez Rosa Mag, le magazine du collège Rosa Parks, diffusé sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Des rencontres, du sport, du numérique,
de la musique,
de l'international,
de la politique,
de l'actualité.
Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, en ce 31 mars 2023, vous êtes avec Mohamed, Ryan, Selsebil et l'équipe de la 4e média du Collège Rosa Parks pour une nouvelle émission Rosa Mag. Nous sommes en compagnie de Radio Boomerang 89.7 FM à la Condition Publique, un lieu culturel qui se situe à Roubaix où il y a des spectacles et des belles expositions.
Oui, je le connais ce lieu. Il y a justement actuellement une superbe exposition qui s'appelle Fake News 2. J'ai eu l'occasion de la voir d'ailleurs, elle est géniale.
Tout à fait, Selsebil. C'est pour cela que nous nous sommes tous réunis aujourd'hui pendant la semaine de la presse. Nous nous sommes dit qu'il serait super de faire une émission sur le sujet des fake news.
Oui, tu as raison. Je lance le sommaire d'ailleurs. Nous aurons le plaisir d'en apprendre un peu plus sur les fake news avec nos différentes rubriques. On vous expliquera ce qu'est une fake news, depuis quand ces fake news existent.
Comment faire pour démasquer une fake news? Nous aurons également l'occasion d'accueillir la journaliste Alicia Guedjier qui viendra nous parler de son métier. Jouer avec nous dans une chronique, info ou intox. Il y aura aussi un micro-trottoir et nous terminerons par un débat. Faut-il interdire les réseaux sociaux pour lutter contre les fake news?
Mais tout d'abord, accueillons Août, qui travaille à la Condition Publique et qui va nous en dire un peu plus sur l'exposition qui s'y trouve. Fake News 2, art, fiction, mensonge. Bonjour Août, merci de nous accueillir dans les murs de la Condition Publique.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'exposition Fake News 2? Il y en avait déjà une l'année dernière, pourquoi en avoir refait une cette année?
Alors, la première exposition Fake News, elle a eu lieu à Paris. C'était un projet de la Fondation UDF. Et donc, quand on a vu cette expo, on s'était dit « Ah, ce sera génial de l'avoir chez nous ». Sauf que nous, on a un peu plus de place que eux. Notre salle d'exposition, elle est plus grande. Et c'est aussi un peu différent, Roubaix et Paris. Donc, on s'était dit ça pourrait être vraiment super de rajouter des œuvres et de prolonger un peu la réflexion que l'équipe de la Fondation EDF avait pour leur propre exposition et d'essayer d'étoffer et de approfondir et de contextualiser aussi un peu pour le territoire ici à Roubaix et à la métropole lilloise. Et donc, on a beaucoup travaillé avec ma collègue Ninon Duhamel, qui est curateur d'exposition. Donc, elle fait des expositions. Elle a cherché beaucoup d'autres artistes et elle a eu une longue discussion avec les équipes de la Fondation pour rajouter et faire une deuxième version.
En quoi est-ce important pour vous de travailler avec les artistes?
Alors, notamment sur ce sujet qui est un peu anxiogène et où on a un peu... Voilà, ça fait vite un peu peur et c'est aussi assez complexe à aborder. Le fait de travailler avec des œuvres d'art, pour nous, c'était une manière de rendre plus ludique ou plus simple l'accès à ce sujet qui est quand même très compliqué. Et on s'était dit... la Fondation EDF, elle est partie du constat que les artistes, ils travaillent déjà un peu sur cette limite entre réalité, documentation, fiction. Et donc, peut-être en observant comment eux et elles fabriquent les œuvres, on peut apprendre aussi des choses sur comment est-ce qu'on peut distinguer le réel de la fiction et comment ça se fabrique en fait et comment la ligne entre la réalité et le mensonge est assez fine parfois. Donc ça peut nous aider à aiguiser notre regard. Ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut vite tomber dans le panneau, en fait. Et donc, par exemple, avec l'œuvre Avec le fond vert que vous avez vu dans l'expo, dans un premier temps, on voit des bombes sur une ruine. Et après, on se rend compte qu'en fait, c'est fabriqué, cette image, et comment elle s'est fabriquée. Et donc, ce genre d'œuvres, ils permettent à appréhender cette thématique un peu à partir du sensible. Et on joue avec pendant la visite de l'expo.
Quelle est votre œuvre préférée ?
Alors, mon œuvre préférée, c'est l'œuvre de Estefania Penafiel, qui n'a pas de titre. Et c'est une artiste qui a collectionné pendant des années des pages de journaux où il y a des photos qui sont légendées sans dire l'identité des personnes qui sont sur les photos. Donc on va par exemple avoir une légende sur les ouvriers d'une usine ou les migrants à Calais ou les prostituées, machin. Mais on va jamais dire le nom de la personne qui est sur la photo. Et elle trouve ça injuste. Elle dit qu'on invisibilise les gens en les mettant dans des grandes catégories comme ça. Et donc elle a, pour montrer ça, elle a gommé sur la photo le personnage. Donc elle a vraiment, avec une gomme, enlevé la silhouette de la personne qui de toute façon n'a pas été nommée dans l'article. Et elle a mis les petits restes de la gomme, elle les a mis dans des petites fioles. Et donc elle a une énorme banque de données, de petites fioles qui ont tout un numéro et qui renvoient vers un article ou vers une photo où on ne voit plus la personne. En fait, c'est juste une silhouette blanche. Et moi, j'aime beaucoup cette œuvre, je la trouve très fine et je trouve que c'est très juste ce qu'elle dit, que même en parlant d'un fait, on peut invisibiliser les gens qui sont concernés et en fait on leur rend pas hommage, on les met dans un sac et on raconte pas une histoire à partir de ce qu'ils ont vraiment vécu, etc. Et donc ça, je trouve ça très très beau, cette œuvre. Voilà.
Quand nos auditeurs et auditrices peuvent-ils visiter cette exposition ?
Alors, cette exposition, elle est visible jusqu'au 16 juillet 2023 et elle est ouverte tous les jours de mercredi à dimanche de 13h30 à 19h.
Merci, Oud, pour cet échange riche. Je rappelle donc à nos auditeurs et à nos auditrices que l'exposition Fake News 2, art, fiction, mensonge, se déroulera à la condition publique jusqu'au 16 juillet 2023. Allez-y.
Maintenant, place à Sophia, Mohamed, Anas et Zeynep qui vont nous en dire un peu plus sur ce sujet des fake news. Qu'est-ce que c'est et depuis quand elles existent ? Nous vous laissons avec leurs explications.
Alors oui, nous allons vous parler un peu des fake news. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est, Mohamed ?
Le terme fake news vient de l'expression fausse nouvelle. Elle désigne des informations fausses, c'est-à-dire des informations volontairement truquées dans le but de tromper le lecteur ou l'auditeur.
Depuis quand nous y sommes-nous confrontés ? Depuis quand existent les fake news, Mohamed ?
Eh bien, Anas, tu vas voir que la volonté de donner des informations dans le but de nuire ou de tromper ne date pas d'hier.
Eh oui, le mot fake news date du Moyen-Âge. En effet, au Moyen-Âge, il y avait déjà le mot rumor ou rumeur qui signifiait un bruit qui court, une nouvelle qui se répand. Il y a eu notamment un mythe sur les Juifs en Aquitaine qui était question d'une fausse accusation d'empoisonnement des fontaines et des puits par les Juifs, ce qui ira jusqu'à entraîner des massacres. Au XVIe siècle, le canard désigne la publication et diffusée par un colporteur, c'est-à-dire un marchand ambulant, et parle d'un fait divers. En 1750, le mot désignera une fausse nouvelle. Le 29 juillet 1881 est volée la loi sur la liberté de la presse. La notion d'une nouvelle fausse fait alors son apparition dans ce cadre juridique.
En novembre 2016, le mot « post-true », soit « post-vérité » en français, est un mot qui a été élu mot de l'année par le dictionnaire Oxford. Et ça veut dire quoi, « post-true » ?
Alors c'est un état de fait où le vrai, la vérité, compte moins que la persuasion, les apparences.
C'est pas génial, ça ?
Oui, tu as raison.
Toujours en 2016, apparaissent les deepfakes, c'est-à-dire les trucages. Avec l'avancement des technologies numériques, cela rend plus difficile le travail de vérification.
En 2018, le mot fake news apparaît dans le palmarès des mots les plus employés par les médias, selon la linguiste Jeanne Bordeaux, qui est remplacée par Infox au journal officiel du 4 octobre. Le 22 Le 22 décembre de la même année, la loi contre la manipulation de l'information, appelée la loi fake news, est promulguée. Voilà pour le petit point historique sur les apparitions des fake news.
Merci de nous avoir appris tout ça. Les fake news ne datent pas d'hier, donc ça me fait penser que moi-même j'ai écrit à une fake news. Et vous, Celsa Bill et Ryan, vous êtes déjà fait avoir ?
Oui, plein de fois.
Oui, plusieurs fois. Mais Emmanuel, Bilal et Ali vont nous expliquer comment faire pour démasquer une fake news.
Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous donner quelques conseils afin de vous aider à démasquer les infox, soit les fake news en anglais.
En effet, Bilal, tu as raison, il existe quelques astuces pour savoir si on peut se fier ou non à une affirmation, un article ou un fake qui nous est présenté. Nous allons vous les expliquer. Pour commencer, regardez si la présentation de l'article respecte les codes du journalisme, c'est-à-dire s'il répond aux 5W.
Mais les 5W, c'est quoi, Emmanuel ?
Les 5W, c'est répondre aux questions « what »,« why », »,« where », »,« when », »,« où », soit en français « quoi », »,« pourquoi », »,« où », »,« quand » et « qui ». Concrètement, il s'agit de définir le « quoi ». Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi parle le sujet ? Le « qui ». Quelles sont les personnes importantes ? Il s'agira de savoir qui témoigne, qui est interviewé. Le « pourquoi », comment ? Il s'est passé quoi ? Pourquoi ? Le « où », où est-ce qu'on se situe ? Quel est le lieu où le sujet se déroule ? Le « quand », de quand date le sujet ? Si l'article ne répond pas aux 5W, il faudra s'en méfier, car cela veut dire qu'il manque des informations importantes. De plus, si vous avez encore un doute, vous devez regarder si le document a un titre accrocheur. Si la nouvelle fait appel aux émotions, en général, les fake news se veulent angoissantes ou spectaculaires. Il faut vérifier si le sujet touche un large public, ou juste une population spécifique. Si le nom de l'auteur et les sources sont précisés, c'est-à-dire qu'il faut avoir le nom du journaliste, du site qui héberge le document, le nom du site qui le partage par exemple. Et faites attention à la date de l'information. En effet, certaines fake news circulent depuis des années.
Et si après tout cela, vous n'êtes toujours pas convaincu, que peut-on faire, Ali ?
Il existe des sites fiables qui sont spécialisés dans les recherches de fake news. Nous allons vous en présenter 5. Il y a l'AFP Factuel. Vous allez retrouver dessus les articles vérifiés par l'AFP, c'est-à-dire l'Agence française de la presse. On a aussi Fake Off, qui est une rédaction en 20 minutes qui dispose d'une rubrique de fact-checking qui lutte contre les fake news. Ensuite, vous pouvez utiliser Hoaxbuster, une plateforme collaborative contre les désinformations. Son site permet d'identifier les hoax, ce qui veut dire les canulars sur la toile. Le quatrième site qu'on vous propose, c'est un décodex, le moteur de recherche mondial, vous aider à vérifier l'authentification des informations. Et enfin, c'est aussi un décodeur du monde qui vous aide à distinguer le vrai du faux, rumeur intox.
On n'oublie pas Hugo Décrypte sur les réseaux Instagram, Twitter, TikTok, etc. pour les informations quotidiennes en une minute.
Oui, tu as raison, Bilal.
Et voilà, c'est fini pour les conseils. Vous êtes maintenant prêts à affronter les fake news.
Merci à vous de nous avoir éclairés sur ce sujet, les garçons. Grâce à vous, j'espère ne plus me faire avoir. C'est vrai que ce n'est pas évident.
Oui, il arrive même que des professionnels se fassent avoir. Regarde l'affaire avec Xavier Dupont de Ligonnès. Dans tous les JT, les journalistes disaient qu'on l'avait retrouvé, puis il s'avérait que c'était une erreur.
Oui, tu as raison. Alors attention, c'était une erreur, pas une fake news. Il n'y avait pas d'intention de nuire. L'information avait juste été diffusée avant d'être vérifiée.
Pas facile le métier de journaliste. Eh bien, ça tombe bien que tu dises cela. Lilia et Célia ont préparé des questions pour Alissa Guedji, journaliste à La Voix du Nord. Je vous propose de l'accueillir toutes les trois et découvrir l'interview.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis avec Célia et Alissa Guedji, qui est journaliste qui travaille à La Voix du Nord et sur les réseaux sociaux Tavo. Merci Alissa d'être venue répondre à nos questions.
Merci pour l'invitation.
On a le plaisir de vous recevoir à la Condition publique pour notre émission spéciale Fake News. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre métier ?
Sur mon métier de journaliste, oui, bien sûr, je peux vous en dire un peu plus. Ce qu'on fait, nous, journalistes, c'est qu'on va aller collecter l'information, d'une part, et ensuite, on va la rendre publique. Mais entre deux, la chose vraiment importante à retenir, c'est qu'on va vérifier cette information. Et c'est ça qui fait la différence entre voilà, le travail d'un journaliste et ce qu'on peut parfois avoir comme info par ailleurs. C'est que nous, ça va être vraiment notre rôle de vérifier l'information sur le terrain en allant collecter plusieurs sources, aller interroger plusieurs personnes. Et du coup, ça nous permet de recouper l'information et de la vérifier. Et c'est ça, du coup, qui fait la différence par rapport à des fake news voilà, dont vous parlez dans votre émission.
Vous avez déjà été confronté à une ou des fake news ?
Ah bah oui, bien sûr, comme tout le monde, comme toi, je pense. Voilà, on est tous confrontés à des fake news assez régulièrement. Voilà, alors ceci dit, moi, comme je suis journaliste, c'est mon métier de vérifier l'info, comme je vous l'ai expliqué. Donc du coup, je fais peut-être un peu plus attention que d'autres personnes voilà, à ce que je peux voir comme contenu dans les médias ou sur les réseaux sociaux, surtout parce que c'est souvent là qu'on trouve les fake news. Voilà, après, y a des choses à faire, c'est vraiment vérifier. Voilà, alors des exemples récents, peut-être vous avez entendu parler d'images d'Emmanuel Macron récemment en termes de fake news. Je ne sais pas les filles si vous avez vu ces images d'Emmanuel Macron où on le voit manifestant ou étant comme un éboueur à Paris. Il y a eu des fake news récemment. Moi, c'est les plus récentes que j'ai vues. Voilà, alors aussi, quand on se renseigne et quand on va voir sur des vrais médias, par exemple à La Voix du Nord, moi je suis journaliste à La Voix du Nord, cette info, ces photos d'Emmanuel Macron qui étaient en fait truquées, c'était des photos qui étaient créées par une intelligence artificielle. Et bien du coup, nous à La Voix du Nord, on a fait un article pour expliquer que ben non, c'était pas des vraies photos, c'était des fake news. On a par exemple une page sur le site de La Voix du Nord qui s'appelle Infox et Fake News, donc je vous encourage à aller la consulter. Et c'est un endroit où on va justement ben, voilà, combattre ces fake news et essayer de rétablir la vérité.
Vous avez déjà transmis une information fausse et vous êtes rendu compte après l'avoir diffusée.
Bah écoute, on essaye de pas diffuser d'informations fausses parce que nous, c'est notre métier justement de vérifier l'information. Après, ça ne veut pas dire qu'un journaliste ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que des fois, on fait des erreurs, ça nous arrive comme tout le monde. Mais du coup, quand on fait une erreur, nous, en tant que journaliste, on va devoir déjà reconnaître qu'on s'est trompé et ensuite rectifier l'information. C'est-à-dire sur Internet, on peut modifier l'article. Ou si ça a été publié dans le journal, le lendemain, dans le journal du lendemain, on va venir apporter la précision. Je ne me souviens pas avoir fait de grosses erreurs, mais des fois, ça m'est arrivé faire des petites erreurs. Par exemple, je me souviens une fois, j'avais interviewé une avocate sur un sujet. C'était sur l'irresponsabilité pénale. Donc, c'était un sujet un peu compliqué et j'avais dû bien me concentrer pour voilà, recueillir son interview. Et bêtement, je me suis trompée sur le nom de cette avocate. Je l'ai mal orthographiée. Donc, on peut toujours faire des bêtises. Nous aussi, journalistes, on peut se tromper. Mais la différence, c'est qu'on va évidemment rectifier l'information.
Comment faites-vous pour démasquer une fake news ?
Alors, vos camarades, ils nous ont déjà donné beaucoup de façons de débusquer les fake news. Alors moi, comme je suis journaliste, évidemment, j'ai un peu l'habitude de vérifier, donc c'est plus facile pour moi. Mais vous, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est regarder les sources, regarder les sites, regarder voilà, quel est le type de personne qui voilà, va diffuser une info. Ça, c'est déjà hyper important. Donc, en fait, le métier que nous, on fait, journalistes, de vérifier l'information, bah, vous, en tant que citoyen, vous pouvez aussi vérifier avec différents médias, par exemple. Quand vous avez une info, si vous n'êtes pas très sûr, bah, peut-être vous allez pouvoir aller voir un autre média pour essayer de confirmer, de voir si un autre média dit la même chose ou pas. Donc ça peut être un bon moyen aussi de faire un petit peu le tri. Et des fois, il y a des infos qui sont fausses, mais c'est pas très grave. Peut-être c'est une erreur, comme je le disais tout à l'heure. Là où il faut vraiment faire attention, c'est quand il y a des infos fausses qui sont publiées, mais pour voilà, tromper les gens, pour manipuler l'opinion. Là, il faut vraiment être vigilant, je dirais.
Avez-vous des conseils pour éviter de croire aux fake news ?
Pour éviter de, excuse-moi,
de croire aux fake news.
De croire aux fake news. Bah, je crois que vous êtes déjà assez sensible en ayant vu l'expo, là, la condition publique, en travaillant avec votre classe média. Donc voilà, bien vérifier évidemment l'information avec différentes sources, différents types de médias. Pour les images aussi, on peut utiliser la recherche inversée sur Google. Il y a des petits outils comme ça. Ou tout à l'heure, vos camarades parlaient des sites aussi, de médias qui ont des moteurs de recherche ou des sites de fact-checking, etc. Donc il ne faut pas hésiter à les consulter.
Merci pour vos réponses.
Et si j'ai qu'une, un conseil à vous donner, c'est si vous avez un doute, ne partagez pas une info. Si vous avez le moindre doute, ne partagez pas une info.
Merci pour vos réponses qui nous ont permis d'avoir une version plus professionnelle du sujet. À bientôt.
Merci beaucoup pour vos questions.
Merci Lilia et Célia pour votre interview. C'est toujours bien d'avoir l'avis d'un professionnel. Alicia, vous restez avec nous ?
Ah bah oui, avec plaisir, oui.
En effet, on a un jeu à vous proposer. Info ou intox ? Fatima, Ayoub, Selma, Brahim, Akram, Luc, Amel et Camélia ont fait des recherches sur le site France Info et vont vous poser des questions. Serez-vous démasquer les fake news ? Vous êtes prête, Alicia ?
Oui, j'espère que je vais y arriver.
Bonjour Ayoub et Fatima, on vous écoute.
Alors, le 8 mars a eu lieu la Journée internationale des droits des femmes. Lors de l'édition de 2022, le vice-président du gouvernement de Wallonie en Belgique, Philippe Henry, a affirmé que le féminicide était la première cause de mortalité des femmes de 16 ans à 44 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Alicia ?
Ben, je sais pas. Là, comme ça, je me dis ça peut peut-être être vrai. C'est tellement, les féminicides, un sujet de société, on en parle beaucoup. Et ouais, ça m'étonnerait pas, en fait, mais bon.
Eh ben, c'est faux. D'après Eurostat, les principales causes de mortalité sont les maladies cérébrovasculaires, les cancers du poumon et du sein.
Philippe Henry voulait apporter son soutien dans la lutte contre les féminicides, mais il a depuis reconnu une erreur, précisant que le fact-checking était fondamental puisque les chiffres auxquels il s'était référé dataient. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas s'opposer aux féminicides.
Merci à vous deux. Deuxième essai avec Akram et Luc.
Alicia, en ce moment, on a beaucoup parlé d'alimentation, notamment le mois dernier avec le salon d'agriculture. Bien se nourrir est un sujet important dans notre société actuellement, mais il y a des messages qui circulent depuis quelque temps sur les réseaux disant que l'Union européenne mélange des insectes à nos aliments. Selon vous, est-ce vrai ou faux ?
Oh non, là, je pense que c'est pas vrai quand même, non.
C'est faux, c'est bien une fake news.
Alors pourquoi ces messages à...
Écoute, Luc. Certaines personnes y ont cru car la Commission européenne a autorisé le 24 janvier dernier la mise sur le marché d'une farine de grillon domestique. Mais ce n'est pas pour cela que l'Union européenne va mélanger des insectes à nos aliments malgré qu'on peut lire dans certains messages retweetés à plusieurs reprises. En effet, les règles sont strictes. Sur les emballages d'aliments, on ne retrouve pas d'insectes et c'est obligatoire de marquer tous les aliments pour le consommateur, notamment qu'un aliment contient un insecte.
Donc si vous voyez sur votre pain qui contient poudre, particulièrement dégraissé, d'acheta domesticus, oui sinon non, et soi-disant passant un crâne, il paraît que les insectes sont tous faux mauvais pour la santé.
Merci les garçons, on continue avec Brahim et Salma.
Bonjour, ces temps-ci, on parle beaucoup du réchauffement naturel et climatique. Et à ce sujet, il y a des messages arctiques qui expliquent que la fonte des glaces serait causée par le réchauffement naturel et non par l'activité humaine. D'après vous, un faux ou un tox ?
Que le réchauffement serait... Excuse-moi, j'ai pas écouté. Je suis désolée. Tu peux me redire ? Le réchauffement naturel n'est pas... Le réchauffement climatique ? On est climato-sceptique, c'est ça ? On croit que c'est pas l'activité humaine qui cause le réchauffement climatique ? Bah si, l'activité humaine est en partie responsable du réchauffement climatique. Il y a eu le rapport du GIEC encore là tout récemment. Donc là, si on dit que l'homme n'est pas responsable, c'est une fake news, je pense.
Effectivement, c'est faux. Depuis quelque temps, sur les réseaux, il est dit que la calotte glaciaire se reforme et que sa fonte est due au réchauffement naturel de la planète et non à l'activité humaine. Or, ce n'est pas vrai.
Effectivement, Brahim. Les fontes de glace n'est pas dû au réchauffement naturel de la planète, mais du réchauffement climatique généré en partie par l'activité humaine. Cette fake news provient d'un site qui diffuse des informations. Beaucoup de gens ont cru que c'était vrai et que l'on reposte. En effet, ce message compte plus de 2500 retweets et 3600 likes. Mais d'où c'est venu ?
Alors Salma, tout est... partie d'un article scientifique disant que la fonte des glaces au Groenland avait ralenti cette dernière décennie, mais que par contre ce n'est pas le cas dans le reste de l'Arctique. Le rapport a été modifié par certains, ne retenant que certaines parties ou de l'information de façon volontaire. Les scientifiques sont formels, c'est bien l'activité humaine avec son industrie qui accélère la fonte des glaces.
Merci vous deux, on termine avec Amel et Camélia.
Suite aux événements tragiques récemment survenus en Turquie, une question se pose dans la tête des gens. Peut-on prédire un séisme ? Certains disent que oui, d'autres que non. Pensez-vous un faux ou un tox ?
Je sais pas. Non, je pense pas quand même. C'est pas une vraie info, ça, si ?
Ouais. Un fact-checking a été effectué pour France Info le 15 février 2023. Alors non, il n'est toujours pas possible de prédire un séisme.
Cette fake news vient d'un tweet venant de @ogorba. L'internaute se présente comme chercheur disant ce 3 février dernier que tôt ou tard, il y aura un tremblement de terre de magnitude 7.5 dans cette région, à savoir le centre-sud de la Turquie, Jordanie, Syrie et Liban. Son tweet a été partagé plus de 50 000 fois depuis et aimé plus de 200 000 fois.
Mais après vérification, on sait, comme l'explique Olivier Fabry, géologue et professeur à l'Université de Franche-Comté, que depuis des dizaines d'années, les sismologues cartographient des failles actives, c'est-à-dire des failles qui accumulent des quantités inquiétantes de contraintes et non des séismes qui risquent inévitablement de se produire. Les sismologues peuvent effectuer des prévisions et non pas des prédictions, mais à l'échelle de plusieurs dizaines d'années minimum, on ne peut pas prédire un séisme. Ce tweet écrit parmi tant d'autres n'était qu'une coïncidence.
Merci les filles, merci Alicia d'avoir joué le jeu.
Merci à vous.
Encore une fois, on voit que c'est important de vérifier ses sources pour ne pas se faire avoir. D'ailleurs, je vous propose d'écouter le micro-trottoir réalisé par Brahim, Toufik et Salman. Et vous verrez qu'on est très nombreux à se faire avoir.
Oui, bonjour, c'est Toufik. Avec mes camarades Salman et Brahim, on est allé rencontrer des Roubaisiens et on leur a posé des questions sur les fake news. Écoutez notre micro-trottoir.
Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Qu'est-ce qu'une fake news pour vous?
Qu'est-ce qui fait quoi?
Une fake news.
C'est quoi ça?
C'est une mauvaise information.
Bah, une fake news, c'est une nouvelle qui est fausse, qui propage des rumeurs. C'est plutôt sur le style de la rumeur, je pense. Et puis, bah, qui, je vais dire, alimente un certain nombre de pensées qui ne sont pas forcément les bonnes. Pas forcément correctes, on va dire. Ou juste.
C'est une information qui tourne, qui est fausse. C'est tout.
Alors pour moi, une fake news, c'est une information qui est relayée, mais qui n'est pas forcément vraie, et que les gens croient.
Est-ce que vous croisez souvent des fake news?
C'est une bonne question. Je m'informe pas trop, du coup je vois pas trop d'infos tourner. Alors je peux pas savoir si c'est vraiment des vrais ou des fake news.
Sur quelles plateformes et lesquelles?
Sur plein de plateformes, mais notamment sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Twitter, par exemple, il y a beaucoup de fake news qui circulent.
Alors, on en trouve partout. Après, effectivement, on peut en trouver même dans des médias nationaux qui sont très réputés. Mais ça va surtout être sur Twitter, Facebook, Instagram, sur les réseaux sociaux.
Alors franchement, moi je vais dire, je ne sais pas, puisque je ne fréquente pas les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas, j'ai un fil d'actualité sur mon portable qui me permet de savoir au jour le jour un peu ce qui s'est passé. Probablement dans ce fil d'actualité, il doit y avoir des nouvelles qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais je vais dire, au départ, on ne peut pas savoir si elles sont vraies ou non. Je veux dire, c'est un petit peu aussi en allant creuser, en essayant de savoir, en essayant de se renseigner, et puis de voir différents médias qui croisent ou non ces news, qu'on peut comprendre si elles sont ou correctes ou non.
Est-ce que vous trouvez qu'elles sont dangereuses?
Oui, tout à fait.
Pourquoi?
Parce que les jeunes regardent beaucoup les réseaux sociaux et donc ils se tiennent à la première information.
Oui, elles sont très dangereuses. Par exemple, des fois, quand il y a des gens qui font des infractions, etc., il y a souvent des fake news qui font que ça dit, par exemple, que c'est que des Arabes, etc., alors que c'est totalement faux. Et c'est mauvais, ça peut être dangereux, parce que du coup, ça pousse au racisme et ça crée des conflits.
Oui, c'est forcément dangereux, parce qu'en fait, la clé, c'est l'information. Et plus on la répète, la fake news, plus la rumeur devient une vérité pour certaines personnes qui croient des choses qui sont fausses. Et du coup, ça peut générer des conflits et des problèmes entre les gens.
Alors, oui. Parce que du moment où une population commence à croire une fake news, à ce moment-là, ça peut créer un effet qui n'est pas trop désiré. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont peut-être croire comme l'histoire du pangolin, on va dire, et qu'il y a eu une grosse histoire de racisme anti-asiatique par rapport au Covid. On est bien d'accord? Ouais. Alors que techniquement, ce n'est pas la faute de toutes les personnes asiatiques, on est d'accord? Donc effectivement, une information qui est relayée, qui est fausse, peut être dangereuse pour une communauté ou pour tout le monde si elle est crue si pas mal de personnes la croient. C'est tout. Voilà.
Ok. Merci.
De rien.
C'est faux. On rencontre des fake news partout. Et il y en a beaucoup qui circulent sur les réseaux sociaux.
C'est vrai. Tu as raison. D'ailleurs, le mieux de tout, est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer les réseaux sociaux pour lutter contre les fake news?
Arrête. C'est un peu extrême comme décision.
Et pourquoi pas, vu tout ce qui circule, cela pourrait être une solution. Écoute, je te propose d'en débattre avec Selma, Ayoub, Selman, Zeyneb, Lilia et Akram. Bonjour les amis. D'après vous, faut-il, oui ou non, interdire les réseaux sociaux pour lutter contre les fake news?
Je suis pour l'interdiction des réseaux sociaux parce que ça se diffuse beaucoup trop rapidement. Par exemple, l'histoire du pangolin et Covid-19, et ça propage beaucoup trop de haine.
Il n'y a pas que des fake news sur les réseaux. Par exemple, pendant le confinement, les réseaux ont servi à beaucoup de personnes qui ont utilisé les réseaux pour prendre des nouvelles de leurs proches et suivre les restrictions du président. Et s'il n'y avait pas de réseau, on ne pourrait pas prendre de nouvelles de nos proches pendant le confinement et hors confinement.
Moi aussi, par exemple, pendant le confinement, je ne sortais pas. Les réseaux, ça me faisait passer le temps. Pour me divertir, je regardais beaucoup de vidéos trolls.
Oui, mais il y a des vidéos truquées qui circulent. C'est le cas des deepfakes. Ce sont des manipulations numériques qui permettent de remplacer dans une vidéo un visage par un autre ou de changer les propos d'une personne de façon réaliste. Les jeunes se font avoir par ces fake news.
Alors, il n'y a pas que les jeunes qui se font avoir par les fake news. Et il n'y a pas que les jeunes qui créent les fake news, comme Donald Trump, l'ancien président de des États-Unis, pardon, qui s'est fait élire en disant des fake news et en publiant des fake news. Donc moi aussi, je suis pour l'interdiction des réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux servent aussi à alerter ou dénoncer, par exemple, les pays en guerre. Par exemple, en Ukraine, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des lives TikTok pour demander des cadeaux et pour... avoir le soutien des gens.
Moi, je suis contre enlever les réseaux sociaux. Il y a aussi de vraies informations aussi qui circulent sur les réseaux. Il y a des gens qui s'informent grâce aux réseaux au quotidien de la vie.
Conclusion, avant d'écouter les gens sur les réseaux sociaux, il faut regarder la source et vérifier si c'est une fake news ou non.
Merci pour ce débat. Effectivement, le mieux n'est-il pas d'apprendre à la population, notamment aux jeunesses, à apprendre à discerner le vrai du faux.
Oui, tu as raison. La prévention, c'est important.
Ainsi s'achève notre émission Rosa Mag. On espère que vous passez un bon moment avec nous. Avant de lâcher l'antenne, on voulait remercier Zachary et son équipe de Radio Boomerang. On remercie également Out Sperfechter pour nous avoir accueillis à la condition publique. On remercie Alicia Gaïdier pour avoir bien voulu participer à notre émission. On remercie également nos professeurs, Madame Merlio, Monsieur Donon et Monsieur Rodriguez pour l'aide apportée, ainsi que Monsieur Amaro et Laurane et Baïda de la Fève.
On souhaitait également rendre hommage à Monsieur Aouchine. Il était professeur de mathématiques au Collège Rosa Parks et nous a quittés la semaine dernière. Nous avons une pensée profonde pour sa famille, ses collègues, ses élèves et on lui tenait à dédicacer cette émission.
Merci et à bientôt.
Diffusé sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Des rencontres, du sport, du numérique,
de la musique,
de l'international,
de la politique,
de l'actualité.